Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur une thématique un petit peu particulière, peut-être sur les imaginales, puisqu'on va parler un peu plus d'histoire, même si un auteur par là-bas va nous emmener dans les méandres du temps. On va parler des années 40 avec ce sous-titre, Un passé qui ne passe pas. On a réuni autour de cette table quatre auteurs qui ont écrit sur cette période de la Seconde Guerre mondiale. À la fois si riche et très compliqué et très complexe. Et on va pouvoir explorer un petit peu avec chacun de leurs livres. En plus, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une espèce de chronologie, les uns avec les autres. Donc on va pouvoir un petit peu explorer ces années 40 et essayer de comprendre pourquoi ce passé nous interpelle toujours autant, près de 70 ans après, tout simplement. Pourquoi cette période résonne encore autant en nous. Je vais vous présenter nos invités. Je vais commencer avec Mathilde Tournier, honneur aux dames, qui a fait plusieurs romans, et notamment Entre deux feux, Degré ou de force et La marque de Caïn. Et on est complètement dans la thématique avec ces trois romans. On va en parler progressivement avec elle. Juste à ses côtés, Pierre Pelot. Alors Pierre Pelot, c'est plus de 200 romans. Donc je ne vais pas tous les citer, sinon il n'y aura pas de conférence, tout simplement. Il a fait aussi bien de la science-fiction que du polar, que du roman historique. Je vais simplement peut-être citer le personnage de Dylan Stark. Et puis Les Hommes sans futur, avec ceci, le titre, c'est surtout parce que j'adore le titre Le chien courait sur l'autoroute en criant son nom. Enfin, ça fait des années que j'adore ce titre. Mais l'actualité de Pierre Polo, c'est un roman qui s'appelle Maria. Et qui est beaucoup moins long comme titre, hein. Du coup, il y a eu un raccourcissement. Et Maria qui se passe dans les Vosges, au temps de l'occupation. À mes côtés, Gérald Tenenbaum, qui est né notamment à Nancy, et qui a fait plusieurs romans, dont Rendez-vous au bord du nombre, Le geste, L'ordre des jours, Souffle coupé, et Le problème de Nat. Et on va plus particulièrement parler de L'ordre des jours avec la thématique de la déportation. Mais on va examiner ça dans une poignée de minutes. Vous avez vu comme je mets un petit peu de suspense, on rentre pas tout de suite dans le bouquin, c'est pour vous garder avec nous. Et puis complètement à ma gauche, Johan Elliott, qui vit à Épinal. Johan a une bibliographie pas mal, notamment de science-fiction. On le connaît avec La Lune seule le sait. Récemment, il y a eu La guerre des mondes n'aura pas lieu. Et puis il y a eu deux romans, il y a eu L'ordre noir, qui est là. Et puis je voudrais juste rappeler un petit peu Fureur Prime Time. Voilà, une novella dans la collection du Rocher il y a quelques années, qui parle notamment d'Hitler, tout le moins qui met en scène Hitler, son clone, le clone d'Hitler. Donc voilà, on va pouvoir voir aussi avec lui comment est-ce qu'on peut presque s'amuser avec les personnages de cette période. Je voulais commencer un petit peu avec vous, Mathilde de Tournier, avec vos trois romans, puisqu'il y a une espèce de progression, avec notamment la marque de... Oui, c'est la marque de Caïn, exactement, qui se passe en 1939. Est-ce que vous pouvez vous expliquer pourquoi, est-ce que, comment vous avez écrit ces trois romans et pourquoi vous êtes intéressé plus particulièrement à cette période-là, et en plus, cette chronologie particulière?
Alors bonjour, tout d'abord. Alors ces trois romans, c'est parti d'une envie d'écrire donc sur la Seconde Guerre mondiale quand j'étais au lycée, puisque c'est une période qui m'interpellait beaucoup, notamment bon, parce que j'aime l'histoire contemporaine, j'aime comprendre le monde dans lequel je vis et cette période m'avait interpellée, m'avait particulièrement interpellée parce que justement mes grands-parents l'ont vécu, donc c'est quelque chose à la fois pas très loin de nous, mais finalement que moi j'arrivais, je me demandais toujours comment est-ce que justement on a pu en arriver là alors que le monde dans lequel je vis moi est très très différent et je comprenais pas, j'avais cette envie de comprendre. Comment ça avait pu se passer, comment ça avait pu être possible. Et donc, je voulais l'envisager par le biais du roman, puisque j'ai toujours aimé écrire. Et donc, je voulais écrire un roman qui se passerait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est parti de là. Ensuite, j'ai cherché mon thème, parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est vaste, et qu'il y a énormément de choses qui se sont écrites dessus, et je voulais pas être redondante. Il y avait aussi un constat que j'avais fait, c'est que sur la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont des choses très manichéennes, avec les gentils résistants contre les méchants nazis, et bon, bah, je voulais aussi essayer de mettre plus en perspective, d'écrire les choses de manière un petit peu moins manichéenne. Et je suis tombée donc au gré de mes lectures sur les mémoires de jeunesse de l'illustrateur alsacien Tommy Ungerer, qui racontait son enfance dans l'Alsace annexée par les Allemands. Et donc moi je suis pas du tout alsacienne, justement je viens du sud-ouest de la France, et je me suis rendu compte que c'était une histoire passionnante, puisqu'on a eu toute cette question de l'identité de ces gens qui étaient français, qui se sont retrouvés allemands, qui étaient dans la République française, qui se sont retrouvés dans le régime nazi, embrigadés du jour au lendemain. Et donc c'est parti de là, je me suis dit c'est une histoire qui est finalement très méconnue du reste de la France, et qui pose des questions beaucoup plus universelles, comme la question de l'identité, la question du choix, la question de la responsabilité. Et donc c'est parti de là, je me suis dit je vais écrire sur cette période, je me suis beaucoup documentée, je suis allée en Alsace plusieurs fois, en écrivant je me suis rendu compte que j'aurais pas assez d'un roman pour écrire une fresque. Donc ça s'est divisé en trois romans, donc Entre deux feux le premier, De gré ou de force le second, et La marque de Caïn le dernier, donc ils suivent les mêmes personnages, des jeunes gens pris dans cette thématique, dans cette problématique de l'Alsace annexée et de ce problème d'identité. Et donc on part de 1940, on arrive à 1945. Et après j'ai également fait en sorte que chacun, même si c'est chronologique, chacun des livres puisse se lire en soi. Si on veut n'en lire qu'un, c'est sans problème. Voilà.
Vous êtes très jeune, puisque vous êtes né en 1987, ça se dit pas non pour les filles, mais enfin, on va le dire. C'est la question un petit peu de la distance par rapport à la période. Vous parlez de vos grands-parents. Vous l'avez reçu comme d'abord étant des histoires, un petit peu dématérialisées, qui ont pris corps au fur et à mesure de vos recherches.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, en fait, l'idée de cette période, quelle réalité, en fait, est-ce qu'elle a acquis de la réalité pour vous au fur et à mesure ?
Oui, en fait, je voulais essayer de comprendre et donc de finalement m'imprégner d'une atmosphère que je n'avais pas vécue. Et c'est vrai que c'est ça, ça a été vraiment, parce que en lisant, en écoutant mes grands-parents qui ne sont pas du tout alsaciens, mais qui avaient quand même appréhendé cette période-là, en écoutant les gens âgés, en parlant avec des gens qui avaient vécu cette période, que j'ai essayé vraiment de recréer une atmosphère propre à l'époque. Et c'est vrai que moi, un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire après avoir lu mes livres, c'est quand les gens me disent « Ah oui, je m'y suis vraiment, j'ai eu l'impression d'y être ». Il y a notamment des alsaciens âgés qui s'y sont reconnus, et vraiment, pour moi, c'était signe que j'avais réussi mon pari.
Une petite question, dans De gré ou de force, vous avez deux héros qui choisissent des voies différentes.
Oui, dans la trilogie, oui.
Est-ce que ça a été facile à écrire donc, pour l'auteur que vous êtes, à la fois quelqu'un qui s'engage en résistance, mais quelqu'un qui s'engage plutôt du côté des nazis ?
Ben, ça, en fait, il fallait... moi, il y a quelque chose que j'avais écrit au début, même avant même de commencer, c'était une petite fiche sur chacun de mes personnages. Je savais dans quel sens ils allaient aller, je savais leur vie passée, et même si je raconte pas tout, je savais un petit peu toute leur vie. Et il fallait chaque fois que je passais d'un personnage à l'autre, comme ils ont pas les mêmes... je voulais montrer que finalement, c'est parce qu'ils avaient pas vécu la même jeunesse, la même enfance, et qu'ils n'avaient pas eu du tout les mêmes parcours de vie, qu'ils en arrivaient à prendre des choix différents. Et donc chaque fois que j'écrivais, que je suivais un personnage ou l'autre, il fallait que je me remette en tête, c'est quelque chose d'assez schizophrénique, c'est-à-dire que je devais un petit peu me remettre presque dans la peau du personnage, me dire voilà, lui il a fait ça, il a cette psychologie là parce qu'il a vécu ça. Et donc il y avait quelque chose de très psychologique dans ce que je voulais, parce que ça devait être aussi, rester aussi très humain. Et même finalement le personnage de nazi, je voulais montrer que jamais perdre à l'esprit que c'est avant tout un homme, c'est ça d'ailleurs le grand drame, c'est que les nazis étaient des hommes, et essayer de comprendre comment cet homme avait pu en arriver là. Et c'est tout le cheminement, aussi la chronologie permet de montrer justement le cheminement d'un homme, tout son parcours, que ce soit ou bien vers la résistance, ou bien vers le nazisme, ou bien vers finalement le rien, puisque même mon personnage principal, qui au final, va finir par dire non. Au début, il ne dit pas tout à fait non, et même pas du tout. Et c'est aussi montrer ça, montrer que c'est des humains avant tout, ce n'est pas des héros. Et voilà.
Je vais passer la parole à Pierre Pelot. À propos donc justement de Maria, peut-être déjà comment vous est venue l'idée de ce livre. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur l'intrigue?
C'est inspiré, je dis bien inspiré, d'une histoire authentique. Donc l'idée, elle est venue de là, quoi. Ça, j'ai pas fait d'efforts terribles, sinon que j'ai adapté ça sous forme de fiction et de roman, donc, et que le personnage qui m'a servi de modèle, on va dire ça comme ça, n'a pas suivi exactement le même parcours que dans le roman. J'en ai fait une histoire à ma façon, mais c'était une histoire qui s'est déroulée donc en 1944 dans le village où je suis né et où je vis, et que j'avais entendu forcément raconter. C'est pas non plus une histoire que tout le monde se racontait tous les jours à la veillée, c'est pas ça du tout, mais on le savait, quoi. On savait qu'une dame avait vécu ce qu'elle a vécu et que je raconte en partie dans le livre, et puis qu'elle avait vécu ça plus ou moins mal. Et jusqu'au final, ouais, dans la vérité des choses, cette dame-là est morte il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Alors que dans le roman, ce n'est pas tout à fait ça. Voilà. C'est inspiré d'une histoire tout à fait authentique et dramatique et terrifiante quelque part. Moi, c'est une dame aussi que je n'ai pas croisée tous les jours dans ma vie, que je l'ai peut-être vue en tout et pour tout 3-4 fois. J'ai vu sa silhouette passer, j'ai vu la maison dans laquelle elle vivait qui avait été encore très tardivement, il arrivait qu'on lui peigne des croix gammées sur la porte de sa maison, parce que, alors qu'elle était d'une innocence absolue, dans ce qui lui était reproché en tout cas, c'est surtout son mari qui avait fait des bêtises, on va dire ça comme ça. Et donc, voilà, je la connaissais de très loin, mais n'empêche que ce parcours-là, véritable et vivant, moi, j'ai quand même trouvé toujours ça quelque part un peu admirable quand même, quoi, parce qu'elle s'est jamais plainte. Elle était d'une discrétion absolue. Elle n'a jamais courbé l'échine de façon trop ostentatoire non plus. Et donc, quand on m'a raconté cette histoire-là, quand je l'ai entendue, je trouvais que c'était un personnage formidable. J'ai eu envie de m'en inspirer, donc, pour raconter une histoire qui serait un peu le portrait de cette dame-là, trafiquée, évidemment.
Alors, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas lu, si on peut juste dire deux mots, Maria est une femme qui va être enlevée par des résistants.
Oui, c'est très facilement résumable, hein. C'est une dame... je vais parler du personnage du roman, plutôt, puisque ça correspond à peu près à la réalité. C'est une institutrice de 24 ans, en 1944, qui un jour voit débarquer, alors qu'elle est dans la cour de sa récréation avec des enfants, voit débarquer des résistants, les fameux gentils dont tu parlais tout à l'heure, qui viennent la chercher et qui l'embarquent dans un camp, dans leur camp, pour l'accuser de quelque chose qu'elle n'a pas commis. Son mari, par contre, a dénoncé des résistants. Et ça, c'est un fait absolument authentique. Un jour, en 1944, le 2 octobre 1944, dans le village où je suis donc, on a réuni des travailleurs, des gens qui étaient embarqués par les forces allemandes pour travailler au sommet du ballon d'Alsace, pour y faire des fortifications, pour résister aux Américains qui arrivaient. Et donc on les embarquait là-haut. Et un jour, les camions n'ont pas embarqué ces gens-là là-haut, mais ont lu une liste de 60 et quelques personnages, les ont embarqués dans la mairie, les ont tabassés et les ont accusés de faire partie... de la résistance. C'était le cas. Et ils ont été embarqués dans les camps. Sur 60 et quelques, une vingtaine sont revenus. Et ils avaient été dénoncés. Dénoncés par un monsieur qui était le mari de cette fameuse Maria, qui lui-même a été dénoncé, et on peut le dire, par son épouse, en tant que dénonciateur, mais pas pour des raisons politiques ni historiques, parce que c'était une histoire... on va dire d'amour, pour être poli, qu'elle ne supportait pas. Donc, parce que ce monsieur était, comme certains, et maintenant, on a des exemples, c'est marrant, était très porté sur beaucoup de choses, comme ça, donc elle ne supportait pas la chose, elle l'a dénoncé pour ça, mais elle l'a dénoncé en tant que dénonciateur, bien sûr. Et lui a été fusillé par les maquisards, et elle a passé un très mauvais moment dans ce camp en question, elle en est revenue, et après, on lui a fait donc porter jusqu'au bout cette histoire-là. Et j'ai pris des libertés avec dans le roman, parce que cette Maria, la mienne, n'est pas morte, donc, et on la retrouve un jour, au bout de son existence, dans un hospice de vieillard, où, je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, c'est assez étonnant, j'avais été frappé par le fait qu'en allant rendre visite à une personne dans ce genre d'hospice, que des gens, dans les petits villages comme ça, quand il y a des hospices, des maisons de vieillesse, des gens se retrouvent là après avoir vécu ensemble leur enfance. Et ils se sont perdus de vue complètement. Ils ont chacun vécu leur vie, puis ils se sont perdus. Et il arrive qu'ils se retrouvent dans ces endroits. Et je me suis dit que c'était... Je me suis dit, c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais ça peut être étonnant, en tout cas, de continuer une vie et des histoires qui ont été interrompues par une vie, quoi, dans ce lieu-là. Et donc, ma Maria, à moi, et j'ai presque tout dit, mais il y a des choses que je ne peux pas dire, se retrouve dans cet endroit-là et va continuer son histoire. Et je pense aussi, il y a le thème, derrière tout ça, il y a quelque chose qui fait que c'est peut être un moteur, à mon avis, pour une existence, c'est, tenez-vous bien, c'est la haine. Je crois que la haine, c'est pas si mal que ça, finalement, quand c'est bien employé, et que ça peut faire en sorte qu'une personne qui a perdu, qu'on a tuée, qui est morte psychologiquement, qui a perdu son identité, peut la retrouver. Ça peut être un moteur de ça. J'allais dire un autre truc, il ne faut pas que je le dise, parce que c'est dans les dernières pages du bouquin qu'on comprend.
Une petite question, toujours sur cette distance. Est-ce que ça vous aurait autant intéressé si vous n'aviez pas croisé cette dame ? Si vous n'aviez pas... Si ça avait été dans une autre région, etc.
Je pense d'abord que... je pense que ça peut, c'est une histoire qui peut se passer éventuellement dans n'importe quelle région, hein, d'une part. Et il a suffi que j'entende parler de cette histoire-là pour que je me dise que le personnage qui la vivait était intéressant, quoi. Moi, m'intéressait en tout cas. Donc, que je l'ai croisé ou pas, ça, physiquement, ça ne faisait pas d'importance. C'était son histoire qui m'était venue. Vous savez, il y a plusieurs versions. En plus, c'est ça qui est drôle, parce qu'il y a des... Il y a des gens, j'ai reçu dernièrement, il n'y a pas très longtemps, donc un mail d'un monsieur qui faisait partie des maquisards en question. Qui m'a dit non, votre roman c'est faux parce que ça s'est passé. Je savais très bien. Alors il me demandait si c'était vraiment un truc historique ou pas. Ben, j'ai répondu, écoutez, non, c'est une fiction. Fiction, ça part de la réalité, ça peut bifurquer. C'est un roman. Donc il m'a dit, ben voilà, parce que ça s'est passé comme ça. Et il m'a raconté comment. Et lui, apparemment, a vécu la chose, quoi. Donc voilà.
on va passer la parole à Gérald Tenenbaum pour parler justement de l'ordre des jours. Alors pourquoi la période vous a intéressé ? Puis on va s'intéresser après à votre personnage qui est dans l'attente. Mais d'abord, comment est né un peu ce roman ?
Bah, ce roman, il est né de plusieurs interrogations et surtout de la constatation que... Bon, la période de la guerre a donné la parole à beaucoup de gens, et il y a une catégorie de personnes qui n'a jamais eu la parole, ce sont les enfants des déportés. Après la guerre, personne n'a parlé, enfin les déportés n'ont pas parlé, ils ont tenté de parler, et puis ils se sont très rapidement tus. Le livre de Primo Levi, Si c'est un homme, doit être paru en 1947. Il a dû être tiré à 500 exemplaires. Personne ne l'a acheté. C'était bon. Et les déportés se sont rapidement tués et ne se sont plus parlé qu'entre eux. Ils avaient l'impression que personne ne pouvait les comprendre. Comme eux ne parlaient pas, leurs enfants, leurs familles ne se sont pas sentis la capacité de parler. Et quand ils ont commencé à parler à la fin des années 80, au début des années 90, eh bien, les enfants ne pouvaient de nouveau n'ont pas pu parler, puisque c'était les témoins eux-mêmes, ceux qui avaient vécu la chose, qui ont raconté leur l'horreur, qui ont raconté leur souffrance, qui ont raconté ce qu'ils ont vécu. Et donc, les enfants, de nouveau, n'ont pas pu parler. Donc, il y a cette blessure... que je trouve personnellement poignante, je dirais, de la seconde génération, mais immédiatement héritière de la première. Et ce sont des gens dont les destins, moi j'en ai connu quelques-uns dans ma vie, Et ce sont des gens dont les destins sont d'une certaine manière brisés dès le départ. Ce sont des gens qui ont toujours eu qui ont une vie affective très tourmentée, qui se sont pas mariés ou qui ont divorcé très très rapidement, quand ils ont eu des enfants, ça s'est mal passé, souvent ils n'en ont pas eu. Et ce sont des gens qui sont restés accrochés dans un passé justement qui ne passe pas. Et donc j'ai eu envie de décrire. Donc mon livre commence, il commence en 1958, mais ensuite il remonte jusqu'en 1946, donc juste après la guerre, il y a deux personnages principaux qui sont deux enfants de déportés, mais avec des histoires tout à fait différentes, qui attendent, une jeune femme, donc Solange, qui attend le retour de son père et qui espère pendant quelques mois que ce père va pouvoir revenir. Et puis un jeune homme, Simon, qui lui sait très bien quel a été le destin de ses parents, mais est envahi par une énorme culpabilité de ne pas avoir combattu pour les sauver.
Qu'est-ce qui a donné l'idée, l'étincelle de cette trame ?
C'est un livre que j'ai porté en moi pendant de nombreuses années, que je n'osais pas écrire. La trame s'est tissée progressivement. Et j'étais comme accroché à la génération du dessus. Et j'avais très peur d'écrire ce livre parce que j'avais peur de me tromper, parce que j'avais peur que ça sonne faux, parce que ce sont des événements que je n'ai pas vécu, parce que j'avais peur aussi de blesser. Toucher sans blesser, c'est pas toujours facile. Et puis finalement, c'est en discutant avec mon fils, donc avec la génération suivante, que j'ai pu l'écrire, et c'est lui qui m'a donné le courage de l'écrire. Donc il y avait plusieurs événements dont j'avais envie de parler. Et autour duquel le livre s'est construit. Un des événements, ce sont les pogroms qui ont eu lieu en Pologne après la guerre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, qu'il ait pu y avoir en 1946-1947 des pogroms qui se sont passés sur les lieux de la déportation. Et pour achever, les survivants, quoi. Ça c'est. Et il y a un livre de Marc Hillel qui est paru dans les années 1980, qui s'appelle Le Massacre des survivants et qui raconte en particulier les pogroms de Kielce en Pologne. Et c'était quelque chose dont j'avais envie de parler, non pas comme un historien, mais comme un romancier, parce que je pense que le romanesque peut aussi faire œuvre d'histoire et peut aussi transmettre les choses, même si c'est, comme le disait Pierre, pas dans une vérité historique estampillée, mais dans une vérité affective. Et je crois que beaucoup de choses peuvent justement se transmettre de cette façon-là.
On va passer la parole à Joanne Elliott, qui, si je ne m'abuse, n'a pas abordé la période sous l'angle d'un roman qui pourrait se passer à cette période-là, mais qui néanmoins l'a évoqué à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que tu l'as évoqué ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette période ?
Alors, vaste question, qu'est-ce qui m'intéresse ? Tout d'abord, un intérêt personnel pour l'histoire. Moi, j'ai été étudiant en fac d'histoire, j'ai été même quelques courtes années prof d'histoire. Et d'abord, je retournerai la question. J'aurais du mal à comprendre qu'on ne puisse pas s'intéresser, d'ailleurs, simplement à cette époque, que j'élargirai aux années 30. À la limite, je suis même moi plus intéressé par la décennie, enfin, si ce n'est même d'ailleurs les deux décennies qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale et qui expliquent, qui montrent, si on peut dire ça comme ça, comment et pourquoi cela a pu arriver. Mais ensuite, à travers mes fictions, effectivement, moi, je n'ai pas écrit de roman historique, même décalé vers la fiction, bien, puisque j'aborde donc, de manière transversale cette époque au travers de la science-fiction ou de métaphores, ou de le côté farce. Tu citais tout à l'heure, par exemple, Führer Primetime. C'est une farce de science-fiction, dont le thème est d'ailleurs plus une dénonciation de la stupidité de certains médias qu'autre chose. Mais par exemple, dans Ordre Noir, donc je suis revenu à cette période par le biais de l'Uchronie, c'est-à-dire en fait on imagine que l'histoire soit passée différemment, pardon, et on suit donc le point de vue de plusieurs personnages qui évoluent dans des mondes, plusieurs mondes parallèles, un autre thème de science-fiction, où la Seconde Guerre mondiale n'a jamais eu lieu, mais où ce qu'on pourrait appeler les principes qui ont, hélas, dans notre monde à nous, concouru à son avènement, ressurgissent à notre époque. Voilà. Donc je m'intéresse plus cet intérêt sur les conditions particulières qui peuvent toujours rendre possible l'avènement de ce genre d'événement, parce que je crois, hélas, qu'on tire très peu de leçons, même des pires drames de l'histoire. Enfin bon, il suffit d'ouvrir les yeux sur l'histoire récente. On n'a pas mis fin à la perpétuation de génocides après l'exemple du pire génocide malgré tout qui a pu avoir lieu ces années-là. Donc voilà, je m'intéresse aux mécanismes qui font que, hélas, l'histoire a tendance à bégayer.
Et simplement pour revenir sur Führer Primetime, mettre en scène donc un clone d'Hitler qui se bat contre Elvis, hein, c'est ça?
Oui, parce que bon, la première scène du livre, on est dans un futur proche où on a les moyens technologiques de cloner les gens disparus. Et je me suis posé la question, mais c'est une technologie qui pourrait valoir très cher. Qui en aura les moyens dans le futur? Les grandes chaînes de télévision, les grands médias. Et donc, ils trouvent rien de plus intelligent que de mettre en place des talk-shows avec des personnages qui attirent le public. Et le bouquin s'ouvre par un grand débat sur la question de la Shoah entre le clone d'Adolf Hitler et le clone d'Elvis Presley, bien sûr. Mais je suis persuadé que si un jour ce genre de technique existe, ce genre d'imbécilité extrême arrivera. Alors ça, hélas, je n'ai aucun souci là-dessus.
En fait, ma question est sournoise. En fait, c'est la question de l'humour et de, parce que là, on a des sujets qui sont relativement graves, hein, avec les trois autres auteurs. C'est toujours la question de la distance. Est-ce que ça t'a posé problème ou est-ce que ça t'a interrogé à un moment de mettre en scène un personnage comme Hitler pour en faire quelque chose de drôle?
Très honnêtement, non. Alors, je sais que certains ne sont pas d'accord, mais je pense fondamentalement que par le biais de la fiction, en plus une fiction largement décalée comme celle-ci, on ne doit se fixer aucune limite en fiction. Alors ça, j'en suis un partisan absolu. Et je rappellerai une chose, Le Dictateur, 1939-1940, To Be or Not to Be, de Lubitsch, 1942, donc en plein cœur, hélas, de l'action, parmi les plus grands cinéastes, rit d'Adolf Hitler. Donc je pense que dans la fiction, on n'a pas un s'en priver. Évidemment, en plus, par le prisme de cette métaphore, de ce décalage, de cette farce, la distance est tellement énorme. Enfin, à mon avis, on ne peut pas douter une seule seconde, j'espère, des intentions de l'auteur. Je sais que parfois, dans ce genre de fiction, apporte à polémique. Il y a eu polémique sur le bouquin de Jonathan Little, sur les bienveillantes. On lui a reproché à un moment, effectivement, de s'être mis dans la peau et dans la tête d'un bourreau, des camps, mais de manière, cette fois, sérieuse, sans ce décalage. Moi, je pense, à mon avis, c'était un mauvais procès, mais c'est vrai que je comprends, en revanche, que la question puisse être posée et puisse susciter ce genre de débat. Mais il me semble que... Par principe, je suis contre toute forme de censure, et y compris dans ses extrêmes limites. Je pense que tout peut être prétexte à fiction.
Est-ce que les autres sont d'accord, justement? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'effectivement, on n'a pas de limite ou on n'a pas à se censurer particulièrement cette période? Si l'un d'entre vous...
Moi, j'ai pas mal réfléchi à cette question. Je suis d'accord que la littérature ne doit pas être censurée. Mais je suis, en même temps, je pense que l'écrivain est responsable de ce qu'il écrit. C'est-à-dire que, quand Jonathan Little nous fait entrer dans la tête d'un bourreau qui est un homme ordinaire et qui et que d'une certaine manière, il nous dit, bon ben, voilà, le bourreau est un homme ordinaire, on est tous des hommes ordinaires, on est tous des bourreaux potentiels, il en est responsable. Et donc, voilà, on peut. Le livre a le droit d'être écrit, il a le droit d'être apprécié, il a le droit d'être, je veux dire, on peut en parler, etc. Bien sûr, il ne doit y avoir aucune censure, mais en même temps, quand on écrit des choses qui interpellent sur le plan moral, eh bien, l'écrivain doit en rendre compte.
Ah ben ça, je ne nie absolument pas la part de responsabilité. Ce serait d'ailleurs la dernière des lâchetés de la part de l'écrivain que de se cacher uniquement derrière le prisme de la fiction pour dire non, attention, ce n'est que de la fiction. Ah non, alors ça, on est entièrement d'accord à ce sujet, oui.
Mathilde Tourny, je vous vois hocher la tête, vous êtes d'accord aussi?
Oui, je suis entièrement d'accord. Moi, je pense qu'effectivement, on peut tout écrire, même quelque part, il faut aussi, puisque ce serait... Enfin, dire par exemple, reprocher à Jonathan Little, si on prend cet exemple-là, de s'être mis dans la tête d'un bourreau, moi je trouve que limite c'est presque dangereux, parce que justement, il ne faut pas oublier que les bourreaux justement ont existé, qu'ils étaient des hommes, et c'est vrai que quand il y a des critiques comme ça, moi ça me gêne, parce que justement, il ne faut pas occulter une part, c'est une part de vérité qu'on occulte si jamais on ne laisse pas la parole à tout le monde. Après, effectivement, c'est aussi, je suis entièrement d'accord aussi, de dire que l'auteur doit prendre ses responsabilités et dire les choses en connaissance de cause et qu'effectivement il faut aussi que ne pas duper le lecteur non plus, quoi. C'est-à-dire que on peut tout dire, mais dans les respects de l'honnêteté, effectivement.
Même question à Pierre Pelot, mais elle est inverse. Puisque du coup, là, c'est plutôt la dénonciation d'actes de résistants. Est-ce que... Vous allez me dire non, mais est-ce que c'est une question qui s'est posée à l'écriture? Non, mais effectivement,
Non, mais écrire, c'est prendre ses responsabilités. D'ores et déjà. C'est la moindre des choses. Donc, il s'est trouvé que dans l'histoire... elle n'est pas manichéenne, que les résistants n'étaient pas tous des gentils, qu'en l'occurrence, et comment ça s'est passé, je le détaille pas fortement, mais enfin, il y a des circonstances qui font que, c'est terrible à dire, mais au moment d'écrire ces choses-là, je n'ai pas pardonné, mais j'ai compris comment ces gens pouvaient en être venus là, à ça. Donc moi, je pense qu'on peut tout écrire, absolument tout, et qu'on doit tout écrire. Si en plus on a envie de le faire, si c'est pour dénoncer quelque chose et pour se mettre dans la peau d'un bourreau, d'abord faut le faire, c'est pas facile. Vous savez, moi j'ai écrit un grand bouquin, un énorme bouquin qui s'appelle « C'est ainsi que les hommes vivent » qui se passe pendant la guerre de 30 ans en partie. Pendant un mois et plus, cette partie de la guerre, j'étais en guerre moi-même et j'étais physiquement pas très beau chaque fois que je descendais de mon bureau parce que ça entame, quoi. Mais je me suis... J'ai des personnages qui sont pas reluisants et qui traversent cette période-là. Et à chaque fois que j'en parlais, j'étais ces personnages-là. J'étais ces gens-là. Et j'en suis pas fier, hein, pour autant, d'avoir été... Mais la moindre des choses, c'est d'essayer d'être ces gens-là, justement, quoi. Donc voilà. Ça fait partie du jeu, je crois.
On comprend bien, évidemment, le creuset qu'est cette période, à la fois très trouble, très difficile, et comment ça peut effectivement faire naître des histoires. J'avais juste une réflexion en écoutant une émission sur France Inter, sur un leader nazi au Canada, qui a sévi, j'ai malheureusement mangé le nom, qui a sévi jusque dans les années 60, avec des discours assez virulents. Et là où je veux en venir, c'est qu'ils interrogeaient de jeunes Québécois qui n'en avaient quasiment pas entendu parler, et l'un d'eux disait finalement de ne pas en avoir parlé, ou tout du moins que ça ne m'est pas assez frappé, c'est pas plus mal, parce que du coup, je ne porte pas crédit à ces idées, puisque je ne les connais pas. Et donc, ma question derrière, c'est est-ce que finalement... Est-ce que c'est une dimension supplémentaire quand vous écrivez des romans sur cette période-là, cette question de la transmission finalement? Écrire encore, c'est encore en parler et c'est toujours le mettre en lumière et transmettre ça, transmettre cette mémoire.
C'est pas fatalement transmettre, hein, c'est dire que ça a existé aussi. On peut, si on n'en entend pas parler, donc on ne se pose pas de questions. Aussi, on peut l'inverse, c'est valable aussi, quoi. On risque de se poser, de passer par le même genre de bêtises. Soit dit, ça se renouvelle tout le temps. Hein. Encore une fois, pour en revenir à cet ainsi que les hommes vivent et ma guerre de 30 ans, moi, je sortais de description de bataille infernale et je descendais, j'ouvrais la télévision et c'était Sarajevo et compagnie. Rien n'a changé. Hein. Rien n'a changé. Si les moyens techniques. Les armes ne sont plus les mêmes, mais sinon, il y avait des trucs en Afrique aussi, c'était abominable, quoi. J'avais les images, moi. Moi, je sortais de mettre le nez dans des documentations d'époque où c'était difficile à gérer, quand même. Et je vous assure que il y a des choses, il y a des trucs que j'ai pas pu lire jusqu'au bout, tellement c'était révulsif et révulsant. mais j'avais les images de l'époque actuelle où, mais c'est terrible, quoi. Mais rien n'a changé. Donc, après tout, est-ce que ça vaut la peine de le dire, oui?
Je disais, la question de la transmission, du rappel simplement des événements, enfin oui, reste capitale. L'anecdote que tu rapportais, enfin, par rapport au Canada, me fait penser, il y a quelques années, il y a très peu de temps, il y avait eu un sondage réalisé auprès d'étudiants américains, enfin états-uniens exactement, et alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était un gros tiers, si ce n'est une petite moitié, on leur donnait une liste de noms de personnages historiques célèbres, il y avait Adolf Hitler, et donc ce gros tiers, cette petite moitié ne savait pas qui c'était. Alors certes, on va dire oui, c'est le point de vue d'Américain, ok, mais enfin voilà, moi je trouve ça effectivement strictement aberrant, donc oui, enfin... À titre personnel, on en parlera jamais assez. Avant tout, par rapport à l'œuvre des historiens, et ensuite, par rapport à la fiction. Je hiérarchise tout à fait l'importance. Voilà, mais là, en tant qu'étudiant d'histoire, etc., oui, il faut. Puisque malheureusement, on n'en tire pas les leçons, alors ça pourrait être une façon de baisser les bras. Je dis, ben non, au contraire, bon, ça ne doit que inciter l'histoire au sens large à continuer ses travaux sur la question. Mais oui, moi, je suis effrayé de voir comme c'est, enfin, la capacité d'oubli qu'on a. Si on remonte, le dernier des combattants de la Première Guerre mondiale est mort il y a peu de temps. Voilà, à mon sens, malheureusement, un événement qui va disparaître des mémoires, si ce n'est déjà fait amplement depuis un moment, et on s'achemine vers ce genre de phénomène avec la Seconde Guerre mondiale, hélas. Donc il faut en parler le plus possible, le plus.
Oui, c'est vrai que si on compare, je pense que le romanesque et le romancier a un rôle à jouer dans la transmission et dans les problèmes que peuvent poser ces événements historiques. Et je trouve que ça peut être intéressant de comparer le projet romanesque de Robert Merle quand il écrit « La mort est mon métier » et le projet de Jonathan Little. Parce qu'on les a pas mal comparés, parce que, je veux dire, dans les deux cas, bon, il s'agit d'entrer dans l'intériorité d'un bourreau nazi. Mais alors que Robert Merle, qui écrit son livre dans l'immédiate après-guerre, cherche, je veux dire, attaque de front le problème de l'humanité du bourreau, et il va chercher des raisons politiques, il va chercher des raisons dans l'éducation, dans ce qui s'est passé entre les deux guerres, dans l'idéologie allemande qui a pu mener à ces choses-là. Donc il essaye de comprendre, mais en même temps, il essaye de trouver des raisons. Autrement dit, d'une certaine manière, il dit, bon, l'humanité, c'est pas ça. Je veux dire, ça peut conduire à ça quand les circonstances sont particulières et quand on a fait des erreurs qui sont sur plusieurs générations, comme vous le disiez tout à l'heure. Et alors que Jonathan Little, bon, son héros est quelqu'un de raffiné, qui est quelqu'un de cultivé, qui écoute de la musique, enfin genre qui a tous les apanages de la civilisation. Et puis c'est comme si c'était la nature humaine. Et là, ça pose quand même un problème autrement plus sérieux. Donc, et c'est vrai que, moi personnellement, je me rangerais volontiers du côté de Robert Merle ou de Haneke dans son film plus récemment, Le Ruban Blanc, qui va chercher encore plus loin les raisons qui ont pu amener à ces événements historiques, plutôt que du côté de Little.
Je voyais hocher la tête sur cette question, justement, de cette transmission.
Moi, après, je pense que sur la question de la transmission, je pense que c'est pas bien. Effectivement, quand vous disiez que, par exemple, le dernier combattant de la Première Guerre mondiale s'est éteint, effectivement, ça pose la question de est-ce qu'on va continuer à en parler ? Je pense qu'aussi, je vais rester optimiste là-dessus, puisque je pense que le fait qu'on a des générations différentes et que ces différentes, on a une première génération, les gens qui ont vécu, puis les enfants, puis les petits-enfants, je pense que je veux rester optimiste là-dessus, puisque on a des regards très différents, peut-être plus distanciés, et que c'est pas justement parce que on s'éloigne de l'événement qu'on va avoir un oubli forcément de l'événement, on va avoir une appréhension peut-être différente, mais peut-être aussi plus distanciée, qui va faire que l'événement va réfléchir sur de nouvelles formes, sous de nouveaux aspects. Et après, effectivement, ce qui est très important, c'est de ne pas oublier les événements et surtout de ne pas occulter certaines parties des événements, de ne pas avoir une mémoire sélective. Moi, je voulais aussi conclure sur une phrase, justement, cette question de la transmission, une phrase très belle qui est de Didier Deninx, qui a dit que en oubliant le passé, on se condamne à le revivre. Et moi, c'est vrai que c'est un aphorisme que j'ai fait mien, justement, dans cette question de la transmission et de l'importance d'écrire sur le passé.
Joanne, tu voulais.
Ouais, c'est juste une question qui me vient comme ça en confrontant ce que vous venez de dire tous les deux. C'est peut-être aussi, hélas, cette distanciation avec le temps qui amène à la prise de position, par exemple, peut-être froide de Jonathan Little. C'est peut-être là qu'est le cœur du problème. C'est juste une réflexion comme ça en passant. Parce que je suis d'accord sur effectivement, quand on compare Robert Merle. Évidemment, entre quelqu'un qui a été au cœur de l'événement, qui cherche à justifier, bon, sens historique, et quelqu'un qui prend cette distance froide, qu'on pourrait soupçonner, mais je pense pas que ce soit le cas, mais d'absoudre quelque part de certaines justifications dans son personnage, est-ce que c'est pas justement un problème de cette distance temporelle, ensuite de génération?
Disons que nous, on est actuellement dans un temps où les témoins disparaissent et où les événements deviennent historiques. Donc la mémoire, elle passe de la mémoire des témoins, c'est-à-dire du témoignage, à un travail d'histoire. Et c'est vrai que, on parle beaucoup de devoir de mémoire, moi c'est une expression que je déteste, et je pense qu'on devrait plutôt remplacer ça par travail de mémoire. La mémoire, c'est quelque chose qu'on doit travailler et il y a un effort à faire pour comprendre le passé, pour expliquer les choses qui ont pu arriver. Donc j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça va me revenir peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure?
Je me posais juste la question, justement. Est-ce que justement le problème de la réception particulière du roman de Jonathan Little ne vient pas justement... Il est très jeune, donc il parle bien après les événements, et peut-être que cette apparente froideur, le fait qu'il semble absoudre un peu quelque part son personnage dans la mesure où il ne s'intéresse pas à ce qui fait qu'il est devenu.
Ce que je voulais dire, c'est que le problème de Little, c'est que son livre se présente comme un témoignage, mais c'est un faux témoignage. Vraiment à tous les sens du terme, c'est-à-dire que son personnage est inventé, il y a des événements, le livre est extrêmement bien documenté, donc on a tendance à croire tout ce qu'il dit, et puis à certains moments c'est carrément faux, et même l'inverse de la réalité. Disons que dans enfin, bien sûr, on peut tout faire dans le romanesque, mais quand on remplace, je veux dire, au moment même où justement les témoins disparaissent et où on a recueilli les dernières paroles des témoins, faire un faux témoignage, bon, c'est une chose sérieuse, ouais, c'est une chose grave.
Oui, sur la responsabilité de l'auteur, je suis tout à fait d'accord. Et alors peut-être, alors là, ça ouvre sur d'autres questions. Et on se pose la question, est-ce qu'à l'avenir, effectivement, ce livre, hors tout, ami de tout appareil critique qui le représente dans le contexte, quelle réception il pourra avoir, effectivement, ensuite ? Là, effectivement, la question...
C'est sérieux, ces histoires-là, parce que bon, quand on commence à remplacer le témoignage par... quand on met des idées, des images très fortes dans la tête des gens et que ces images sont le contraire de ce qui s'est passé, si on prend la liste de Schindler, par exemple, et où on voit que dans les douches d'Auschwitz, ils sortaient de l'eau, bon, il y a des gens qui vont croire qu'effectivement, quand on emmenait les gens à la douche à Auschwitz, il y avait de l'eau qui sortait des douches. Et donc, quand on a toute la puissance de l'appareil de Hollywood et qu'on montre ces images-là à des gens qui peut-être n'en ont jamais vu d'autres ou n'ont pas eu d'autres sources d'informations, eh bien on prend une énorme responsabilité. Donc, alors après, quand on dit « do not forget the Holocaust », bon, ça veut dire quoi ?
C'est, si je puis me permettre, c'est aussi, il faut aussi faire la différence entre un ouvrage d'historien et une fiction.
Oui, mais avec le problème, et c'est là où je rejoins complètement, c'est que malheureusement, et peut-être surtout chez les plus jeunes générations, il y a une telle confusion quand on a abreuvé de telles sources d'images, et vous savez, la puissance hollywoodienne, et bon, si on parlait du bouquin de Jonathan Little, bon, un best-seller tel, oui. C'est vrai que cette puissance médiatique, on peut dire, elle peut, oui, effectivement, à la marge, se substituer à une certaine réalité historique. Et là, effectivement, là, c'est tout à fait dangereux si ce n'est pas accompagné de l'appareil nécessaire.
On pourrait dire la même chose du bouquin sur Karski, hein, sur Yann Karski. Ouais. C'est exactement le même problème. Je veux dire, on fait une partie historique, documentée, quasiment un travail d'historien, puis une partie romanesque où bon, le lecteur a tendance à le croire jusqu'au bout, et puis on met dans la bouche de personnages historiques des phrases qu'ils n'ont jamais dites et qui peuvent être même le contraire de ce qu'ils ont pensé. Donc c'est sérieux, oui. Et le romancier, l'écrivain est responsable de tout ça.
Non, mais là tu parles de falsification de l'histoire.
Pardon ?
Tu parles de falsification,
de l'histoire, avec un grand H, d'accord. Oui, tout à fait. Oui.
Non, mais autant, enfin, cette grande, enfin, ce que j'appelle cette liberté totale de l'auteur de fiction s'accompagne d'une responsabilité tout aussi totale.
Voilà, on est d'accord. Non. On est d'accord là-dessus.
Je l'avais pas précisé d'emblée, mais tellement ça me paraît évident, mais comme quoi.
Oui, il faut, ça va mieux en le disant.
Il nous reste 5-6 minutes avant de clore cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? C'est le moment. Profitez-en. Attendez, on va. Hop.
Je ne sais pas quel est le problème qu'il y a à se dire qu'un nazi pouvait être, enfin, ou un monstre peut être affiné et ne ressemble pas à un monstre. Moi, justement, c'est peut-être une manière de, peut-être pas de dénoncer, mais de dire justement, faites attention, ils paraissent comme tout le monde, même des gens très bien. C'est peut-être même une mise en garde. Et que justement, Robert Merle, en expliquant, justement, il justifie le personnage. C'est lui qui va faire qu'on le pardonne, en fait.
On ne vous entend pas du tout.
Bah, c'était pas ouvert. Est-ce que quelqu'un veut lui répondre ?
Oui, disons que si on dit c'est la nature humaine qui conduit aux crimes les plus absolus, et je dirais c'est dans la nature humaine, c'est un discours qui est totalement désespéré. Bien sûr que les criminels étaient des êtres humains, et ça c'est le grand problème que nous posent ces années 40, que nous pose cette période de l'histoire, bien sûr. Mais en même temps, si on arrive à percevoir, je veux dire, les raisons de ce dérapage de masse dans un système politique, dans une idéologie, eh bien, on pourra essayer de l'éviter à l'avenir. Si on se dit c'est la nature humaine, bah alors il n'y a rien à faire. Je veux dire, c'est un discours qui est totalement désespéré.
Oui, mais non, mais la nature humaine est capable de ça aussi.
Elle est capable de ça, bien sûr, mais espérons que ce n'est pas dans n'importe quelle circonstance.
Ah ben oui. Oui.
Voilà.
On va peut-être conclure, peut-être une dernière question au public. Non. Alors on va conclure, simplement restez là, il y a le prix des Imaginales qui va être remis tout de suite et on va remercier nos invités pour avoir débattu de cette question. Merci à vous.
Merci à vous en tout cas.